Chapitre 10. Pour moi, les êtres comme les choses ont un sens, un endroit par où les prendre, si on veut bien les manier, les tenir solidement. Cet endroit, je le connais, c'est ma force, voilà. Cocher, à la tête noire. Sur l'ordre de Paul Astier, le landau découvert où Fresnel, Védrine et lui dressaient leurs trois hautes formes d'un noir d'enterrement, dans la rayonnante après-midi de campagne, vint se ranger à droite du pont de Saint-Cloud, devant l'hôtel désigné, et chaque tresseau de la solide voiture de louage sur le caillouetis de la place laissait voir un significatif et long fourreau de serge verte débordant de la capote rabattue. Pour sa rencontre avec Datis, Paul avait choisi comme témoin d'abord le vicomte de Fresnay, indiqué par le titre et la particule, puis le comte Adriani, mais l'annonciature s'inquiétant de ce nouveau scandale après celui de la barrette, il avait dû remplacer le jeune Pépineau par le sculpteur qui peut-être au dernier moment consentirait à s'avouer marquis sur le procès-verbal des journaux. Du reste, rien de sérieux en apparence. Une altercation au cercle, à la table de jeu, où le prince était venu s'asseoir une dernière fois avant de quitter Paris. Les choses inarrangeables, surtout par la difficulté de mettre les pouces avec un gaillard comme Paul Astier, très coté dans les salles d'armes et dont les cartons s'encadraient en vitrine au tir de l'avenue d'Antin. Pendant que la voiture stationnait à la terrasse du restaurant, sous les regards entendus et discrets des garçons, on vit débouler d'une ruelle en pente un gros, court, guêtre blanche, cravate blanche, chapeau de soie et grâce frétillante de médecin de ville d'eau, qui de loin faisait des signes avec son ombrelle. « Ah, voilà Gomez !» dit Paul. « Docteur Gomez, ancien interne des hôpitaux de Paris, perdu par le jeu et un vieux collage. Mon oncle, pour les filles, bas condottière, pas méchant, mais prêt à tout, et c'est enfin une spécialité de ces sortes d'expéditions, deux louis et le déjeuner. Pour le moment, en villégiature chez Clos à Ville d'Avray, il arrivait, tout essoufflé au rendez-vous, un sac de nuit à la main contenant sa trousse, sa pharmacie, des bandes, des attelles, de quoi monter une ambulance. Piqûre ou blessure ? Fit-il assis dans le landau en face de Paul. Piqûre, piqûre, docteur, des épées de l'Institut. L'Académie française contre les sciences morales et politiques. Gomez sourit, calant son sac entre ses jambes. Oh, je ne savais pas, j'ai pris de grands jeux. Faudra le déballer, ça impressionnera l'ennemi, prononça Védrine de son air tranquille. Le docteur cligna de l'œil, troublé par ces deux visages de témoins inconnus au boulevard, et que Paul Astier, qui le traitait en domestique, ne daignait même pas lui présenter. Comme le landau s'ébranlait, la fenêtre d'un cabinet de société s'ouvrit au premier étage devant un couple qui apparut curieusement. Une longue fille, frêle, aux yeux d'un bleu de lin, en corset, les bras nus, la serviette du déjeuner cachant mal la gorge et les épaules. Près d'elle, un avorton barbu, un nain de la foire dont on ne voyait que la tête pommadée, surmontant à peine la barre d'appui et le bras disproportionné, jeté en tentacule autour de la taille penchée de Marie Donval, l'ingénue du gymnase. Le docteur la reconnut tout haut. « Avec qui donc est-elle ? » Les autres se retournèrent, mais la fille avait disparu, laissant seule cette longue tête de bossu, comme coupée, posée au bord de la fenêtre. « Et c'est le père Fage !» Védrine saluait de la main et s'amusant de l'indignation de Fredel. « Comme je te disais, les plus jolies filles de Paris !»«
Quelle horreur !»«
Ça vous étonne, monsieur de Fredel ?»
Paul Astier commença un farouche éreintement de la femme. Une enfant détraquée, avec tout le pervers, tout le mauvais de l'enfant, ses instincts de tricherie, de menterie, de taquinerie, de lâcheté, et gourmande, et vaniteuse, et curieuse, du bagou, mais pas une idée à elle, et dans la discussion, pleine de trous, de tournants, de glissades, de trottoirs, un soir de verglas. Causer de n'importe quoi avec une femme. Rien, ni bonté, ni pitié, ni intelligence, pas même de sens. Trompant le mari pour l'amant qu'elle n'aime pas davantage, ayant de la maternité une peur abominable et un seul cri d'amour qui ne demande pas « Prends garde !» La voilà la femme moderne. Par exemple, pour une forme de chapeau, pour une robe nouvelle de chez Spricht, capable de voler, prête à n'importe quelle ordure, car au fond, elle n'aime que ça, la toilette. Et pour se figurer à quel point il fallait avoir accompagné, comme lui, les dames de la société les plus chics, les plus huppées, dans les salons du grand couturier. Intime avec les premières, les invitant à déjeuner à leur château, en adoration devant le vieux Spricht comme devant le Saint-Père, la marquise de Rocanera lui amenant ses fillettes pour un peu, puis demandant de les bénir.
Absolument, fit le docteur d'un automatique mouvement de salarié au cou décroché par l'approbation perpétuelle. Il y eut un silence de surprise et de gêne, comme un déséquilibre dans la conversation, après la brusque, violente et inexplicable sortie du jeune homme, d'ordinaire si froid et maître de lui. Le soleil était lourd, réverbéré par des murs de pierre sèche bordant la route en pente raide, où les chevaux montaient péniblement, faisant crier le gravier.
Bien comme chanté, comme pitié de femme, j'ai été témoin de ceci.
Védrine parlait, la tête renversée, bercée dans la capote, les yeux à demi-dos sur des choses que lui seul voyait.
Oh, pas chez le grand couturier, non, non. À l'hôtel Dieu, service de bouchereau. Un cabanon crépi tout blanc, un lit de fer défait, les couvertures à bas, et là-dessus, nu, luisant de sueur et d'écume, contracturé, tordu comme un clown avec des bonds, des hurlements qui remplissaient tout le parvis, un enragé au dernier paroxysme. Au chevet du lit, deux jeunes femmes, chacune d'un côté, la religieuse et une petite étudiante du cours de Bouchereau, penchée sans dégoût et sans peur sur ce misérable que personne n'osait approcher, lui essuyant le front, la bouche, sa sueur de torture, l'écume qui l'étranglait. La sœur priait tout le temps, l'autre non. Mais dans le même élan de leurs yeux, la tendresse pareille de ces petites mains courageuses allant chercher la bave du martyr jusque sous ses dents, dans la grâce héroïque et maternelle d'un geste qui ne se lassait pas, on les sentait bien femmes toutes deux, la femme. Et c'était à s'agenouiller en sanglotant.
Oh, merci, Védrine,
murmura Fredet qui suffoquait, pensant à son ami de Clos Valange. Le docteur ébauchait un mouvement de tête. « Oh, absolument !» Mais la parole nerveuse et sèche de Paul Astier l'arrêta net. Ben oui, des infirmières, je veux bien, infirme elle-même. Elles adorent ça, soigner, panser, torcher, les draps chauds, les bassins, et puis la domination sur les souffrants, les affaiblis. Et sa voix sifflait, montait à l'aigu de celle de sa mère, tandis que son œil froid dardait une petite flamme méchante qui faisait penser aux autres. Mais qu'est-ce qu'il a ? Et suggérait au docteur cette réflexion judicieuse. Beau dire piqûre et glaive de l'Institut, je voudrais pas être dans la peau du prince. Maintenant, comme instinct maternel de la femme, ricana Paul Astier, nous avons en pendant au chromo de notre amie, Madame Evisa, qui enceinte de 8 mois, pour une parure que lui refusait son banquier de mari, se bourrait le ventre à grands coups de poing, heurtait son fœtus aux angles des meubles. « Tiens, ton enfant, sale youtre, tiens, ton enfant !» Et aussi, comme délicatesse et fidélité de la femme, cette petite veuve qui, dans le caveau même du défunt, sur la pierre tomba. « Mais c'est la matronne des fesses que tu nous racontes là, » interrompit Védrine. La discussion s'anima, secouée au cahotement des roues, l'éternelle discussion entre hommes sur le féminin et l'amour. « Messieurs, attention !» dit le docteur, qui, de sa place à reculons, voyait arriver 2 voitures montant la côte au grand trot. Dans la première, une calèche découverte, se trouvaient les témoins du prince que Gomès, debout puis se rasseyant, nommait tout bas avec une intonation respectueuse. Au marquis d'Urbain, général de Bonneuil, du joker très chic, oh, mon confrère au Bouy. Infâme élique dans son genre, ce docteur au Bouy, seulement décoré. Alors, c'était 100 francs. Suivait un coupé de maître où se cachait avec son laveau Datis, très ennuyé de toute cette affaire. 5 minutes, les 3 attelages grimpèrent à la suite en fil de noces ou d'enterrement, et l'on entendait que le bruit des roues, le souffle ou l'ébrouement des chevaux secouant les gourmettes. « Passez devant !» nasilla une voix arrogante. « C'est juste, dit Paul, ils vont préparer nos billets de logement. » Les roues se frôlèrent sur les 3 chemins, les témoins échangèrent un salut, les médecins un sourire de compère. Puis le coupé passa, laissant voir derrière la glace claire relevé malgré la chaleur, un profil morose, immobile, d'une pâleur de cadavre. Il sera pas plus pâle dans 1 heure quand on le ramènera le flanc crevé, songeait Paul. Et il voyait le coup très bien. Fin de seconde et filet droit à fond entre les 3e et 4e côtes. En haut, l'air fraîchi, chargé d'arômes, fleurs de tilleul, d'acacia, roses chauffées, et derrière les clôtures basses des parcs, se vallonnaient de grandes pelouses où courait l'ombre moirée des arbres. Une cloche de gris sonna dans la campagne. Bon, nous sommes arrivés, dit le docteur, qui connaissait l'endroit, les anciens haras du marquis d'Urbain, en vente depuis 2 ans. Tous les chevaux partis, hormis quelques pouliches gambadant ça et là, dans les prés coupés de hautes barrières. On devait se battre tout au bas de la propriété, sur un large terre-plein, devant une écurie de maçonnerie blanche, et l'on y arrivait par des allées dévalantes, mangées d'herbes et de mousses, où les deux troupes marchaient ensemble, mêlées, silencieuses, d'une absolue correction. Seule Védrine, qu'assommaient les formes mondaines, au grand désespoir de Freinet, solennel dans son faux col, s'exclamait « Tiens, du muguet !» Il mordait une branche, puis, saisi de l'immobile splendeur des choses devant l'agitation imbécile des hommes, ses grands bois escaladant la côte en face, ses lointains de toits massés d'eau luisante, de brume bleue, de chaleur. « Est-ce beau? Est-ce calme ? » faisait-il, montrant d'un geste machinal l'horizon à quelqu'un qui marche derrière lui avec un craquement de bottes fines. Oh ! Le mépris dont fut inondé l'incorrect Védrine, et le paysage avec lui et tout le ciel. Car le prince d'Ati savait cela. Il méprisait comme personne. Il méprisait de l'œil ce fameux œil dont Bismarck n'avait pu soutenir l'éclat. Il méprisait de son grand nez de chevrin, chevalin, de sa bouche au coin tombant. Il méprisait, sans savoir pourquoi, sans parler, sans écouter, sans rien lire ni comprendre. Et sa fortune diplomatique, ses succès féminins et mondains étaient faits de ce mépris répandu. Au fond, une tête en grelot vide se sabille, un fantoche que la pitié d'une femme intelligente avait ramassé dans la boîte à vidure. Les écailles d'huîtres des restaurants de nuit, qu'elle avait hissé debout et très haut, lui soufflant ce qu'il fallait dire, encore mieux ce qu'il fallait faire, suggérant ses gestes, ses démarches, jusqu'au jour où, se voyant au fait, il repoussait d'un coup de botte l'escabeau qui ne lui servait plus. Le monde, généralement, trouvait cela très fort, mais tel n'était pas le sentiment de Védrine, et les bas de soie remplis de boue, dit à propos de Talleyrand, lui revenait à l'esprit en regardant le dépasser majestueusement ce personnage d'une si hautaine et louable correction. Évidemment, une femme d'esprit, cette duchesse qui, pour dissimuler la nullité de son amant, l'avait fait diplomate et académicien, affublée de ces deux dominos superposés du carnaval artificiel, aussi usés de trame l'un que l'autre, malgré leur prestige devant lequel la société s'incline encore. Mais lorsqu'elle eût pu l'aimer, se vider, ce grotesque à l'âme dure, oh, Védrine ne se l'expliquait guère. Son titre de prince, oh, elle était d'aussi grande famille que lui. Le chic anglais, cette redingote sanglant, ce dos de pendu, ce pantalon couleur crottin d'une si laide note entre les branches. Fallait-il donc croire ce petit forban de polastier, raillant le goût de la femme vers le bas, le difforme moral ou physique? Le prince arrivait devant la barrière à mi-corps séparant l'allée de la prairie, et, soit méfiant de ses jambes flageolantes, soit qu'il trouva l'exercice incorrect pour un homme aussi important, il hésitait, gêné surtout par ce grand diable d'artiste qu'il sentait derrière son dos. Il se résigna enfin au détour jusqu'à l'ouverture du barrage de bois. L'autre clignait ses petits yeux. Va, va, mon bonhomme, tu as beau prendre le plus long, il va falloir y arriver devant la Maison Blanche. Et qui sait si c'est pas là que te sera compté le juste salaire de tes gredineries, car tout se paie en définitive. L'esprit, contenté par ce soliloque, sans même poser la main sur la barrière, il la franchit d'un vigoureux coup de jarret tout à fait incorrect, et va rejoindre le groupe des témoins affairé au tirage au sort des places et des épées. Malgré le gourmet et la gravité des têtes, à les voir tous pencher vers le hasard des pièces, courant les ramasser, pile ou face, on eût dit de grands écoliers en cours, ridés et grisonnants. Pendant la discussion d'un coup douteux, Vétrine s'entendit appeler doucement par Astier, en train de se dévêtir derrière la maisonnette et de vider ses poches du plus parfait sang-froid. « Qu'est-ce qui bafoue, ce général ? Sa canne à portée de nos épées pour empêcher un malheur ? Oh, je veux pas de ça, tu m'entends ? Pas un duel de bleu ici ? Nous sommes deux anciens, deux de la classe. » Il blaguait, mais serrait les dents, l'œil féroce. « Sérieux, alors ? » demanda Védrine, le scrutant à fond. « Mais tout ce qu'il y a de plus sérieux. » « C'est drôle que je m'en doutais. » Et le sculpteur vint faire sa déclaration au général, brigadier de cavalerie, fendu du talon jusqu'à ses oreilles faunesques qui joutaient de couleurs violentes avec celles de Fredet. Du coup, elles devinrent subitement écarlates à croire que le sang giclait. « Convenu, monsieur. Faites-moi, monsieur. » Les paroles cinglaient en coups de cravache. Samy, que le docteur Aubry aidait à relever la manchette de sa chemise, les entendait-il? Fût-ce l'apparition du souple, félin et vigoureux garçon qui s'avançait, le cou, les bras ronds et découverts, le regard impitoyable? Le fait est que, venu là pour le monde et sans l'ombre d'une préoccupation, un gentleman qui n'en est pas à sa première affaire, et c'est ce que valent de bons témoins, toute sa figure changea brusquement, devint terreuse, montra sous sa barbe affaissée comme un décrochement de mâchoire la fausse grimace de la peur. Néanmoins, il se tenait et vint assez vaillamment en garde. « Allez, messieurs !»« Oui, tout se paie. » Il en eut l'intime sensation devant cette pointe implacable qui le cherchait, le tâtait à distance, semblait ne le ménager là ou là que pour le frapper plus sûrement. On voulait le tuer, c'était sûr, et tout en rompant son grand bras maigre allongé dans le fracas des coquilles, un remords lui venait pour la première fois de l'ignoble abandon de sa maîtresse, de celle qu'il avait tirée de la boue et remise au monde. Le sentiment aussi que la juste colère de cette femme n'était pas étrangère au danger pressant, enveloppant, qui tout autour de lui semblait bouleverser l'atmosphère, faisait tourner, reculer dans un éclairage de rêve le ciel agrandi au-dessus de sa tête, les silhouettes effarées des témoins, des médecins, jusqu'aux gestes éperdus de deux garçons d'écurie, chassant à coups de casquette les chevaux bondissants qui voulaient s'approcher et voir. Tout à coup, des voix violentes, brutales. « Assez, assez, arrêtez donc !» Que s'est-il passé? Le danger est loin, le ciel a repris son immobilité, les choses leur couleur et leur place. Mais à ses pieds, sur le sol fourragé, bouleversé, s'étale un large amas de sang qui noircit la terre jaune, et dedans, Paul Astier abattu, son cou nu percé de part en part, saigné comme un porc. Dans le silence consterné de la catastrophe, la prairie continue au loin son grêle bruit d'insectes, et les chevaux qu'on ne surveille plus, groupés à quelque distance, allongent leurs naseaux curieusement vers ce corps immobile de vaincu. Il avait pourtant bien le sens de l'épée, celui-là. Ses doigts, solidement incrustés sur la garde, faisaient flamboyer, planer et fondre à pic, siffler et s'allonger la lame, tandis que l'autre, en face de lui, n'agitait qu'un bec et peureux tourne-broche. Et comment cela s'est-il donc fait? Ils diront, et ce soir les journaux répéteront après eux, et demain tout Paris avec les journaux, que Paulastier a glissé en se fendant, s'est enferré lui-même, tout cela très détaillé, très précis. Mais dans les circonstances de la vie, est-ce que la précision de nos paroles n'est pas toujours en raison inverse de nos certitudes? Même pour ceux qui regardaient, pour ceux qui se battaient, quelque chose de confus, de voilé, entourera toujours la minute décisive, celle où le destin est entré, en dehors de toute prévision, de toute logique, à porter le dernier coup, caché dans cette nuée obscure, dont ne manque jamais de s'envelopper le dénouement des combats homériques. Porté dans un petit logement de palefrenier attenant à l'écurie, Paulastier, en rouvrant les yeux après une longue syncope, vit d'abord du lit de fer où il s'était couché une lithographie du prince impérial à même la muraille, au-dessus de la commode chargée d'outils de chirurgie. Et le sentiment rentrant en lui par la vue des objets extérieurs, ce pauvre visage mélancolique aux yeux pâles, délavé de l'humidité des murs, cette sombre destinée de jeunesse l'attristait d'un mauvais présage. Mais à cette âme d'ambition et de ruse, l'intrépidité ne manquait pas. Dressant péniblement sa tête, avec la gêne des tours de bande qui la comprimaient, il demanda, la voix changée, affaiblie, quoique toujours railleuse. « Blessure au pic, docteur ?» Gomez, en train de rouler ses gaz féniqués, lui imposa silence d'un grand geste. « Piqûre, vénard que vous êtes, mais il s'en fallait de ça. Au bout et moi, nous avons cru la carotide ouverte. » Le jeune homme reprit un peu de couleur, ses yeux étincelèrent. « Oh, c'est si bon de ne pas mourir !» Tout de suite, l'ambition revenue, il voulut savoir le temps de la guérison, de la convalescence. 3 semaines, 1 mois, d'après le docteur, qui répondait négligemment avec une immense de dédain bien amusante, très vexé au fond, touché dans la peau de son client. Paul, les yeux au mur, combinait. Dati serait parti, Colette mariée, avant qu'il pût seulement se lever. Allons, l'affaire était manquée, il fallait en trouver une autre. La porte ouverte remplit le bouge d'un grand flot de lumière. Oh la vie, le chaud soleil! Védrine, rentrant avec Friday, s'approcha du lit, la main joyeusement tendue. Mais tout a fait une belle peur! Il aimait réellement sa petite fripouille, il tenait comme un objet d'art. « Oui, bien peur !» disait le vicomte, s'essuyant le front, l'air prodigieusement soulagé. Tout à l'heure, c'était son élection, ses espérances académiques, qu'il avait vues par terre dans tout ce sang. Jamais le père Astier n'aurait voulu faire compagne pour un homme mêlé à une telle catastrophe. Un brave cœur, pourtant, se fredait. Mais l'idée fixe de sa candidature l'aimantait comme une aiguille de boussole. Secoué et remoué dans tous les sens, il revenait toujours au pôle académique. Et tandis que le blessé souriait à ses amis, un peu penaud tout de même de se voir étendu sur le flanc, lui, le malin, le fort, Freddy ne cessait de s'extasier sur la correction des témoins avec qui l'on venait de s'entendre pour le procès-verbal, la correction du docteur Aubouy s'offrant à rester près de son confrère, la correction du prince parti dans la calèche et laissant à Paul Astier pour le reconduire chez lui sa voiture très douce à un cheval qui pourrait venir jusqu'à la porte du petit logement. Oh, tout à fait correct! « Mais est-il embêtant avec sa correction ?» fit Védrine, surprenant la grimace que Paul n'avait pu retenir. « Mais une chose vraiment bien extraordinaire, » murmura le jeune homme d'une voix vague qui songeait. Ainsi ce serait lui et non pas l'autre, dont la pâle figure sanglante apparaîtrait à côté du médecin derrière la vitre du coupé revenant au pas. Ah, pour un coup raté! Il se dressa brusquement, malgré l'injonction du docteur, écrivit très vite sur une de ses cartes d'un crayon mal guidé. « Le sort est aussi traître que les hommes. J'ai voulu vous venger. Je n'ai pas pu. Pardon. » Signa, relut, réfléchit, relut encore, puis l'enveloppe fermée. Une horrible enveloppe à fleurs d'épicerie de campagne trouvée dans la poussière de la commode. Il mit dessus « Duchesse Padovani » et pria Fredet de la porter lui-même le plus tôt possible. « Mais ce sera fait dans une heure, mon cher Paul. » Il dit « Merci, au revoir » de la main, s'allongea, ferma les yeux, resta muet et sans bouger jusqu'au départ, écoutant autour de lui, dans la prairie ensoleillée, l'immense et grêle rumeur d'insectes qui lui semblait être le battement de la fièvre commençante, pendant que, sous ses cils baissés, il suivait l'entortillement de sa nouvelle intrigue, si différente de la dernière et miraculeusement improvisée, sur le terrain, en pleine déroute. Était-ce bien une improvisation? L'ambitieux garçon pouvait s'y tromper, car le mobile de nos actes nous échappe souvent, perdu, caché dans tout ce qui s'agite en nous aux heures de crise, ainsi que disparaît dans la foule le meneur qui l'a mis en branle. Un être, c'est une foule. Multiple, compliqué comme elle, il en a les élans confus, désordonnés. Mais le meneur est là, derrière, et si emporté, si spontané qu'il paraisse, nos mouvements, comme ceux de la rue, ont toujours été préparés. Depuis le soir où Lavo, sur la terrasse de l'hôtel Padovani, signalait la duchesse au jeune garde noble, cette pensée était venue à Paul Astier que, si Madame de Rosen lui manquait, il lui resterait la belle Antonia. Il y songeait aussi l'avant-veille aux Français, en apercevant le comte Andriani dans la loge de la duchesse, mais vaguement encore, parce que son effort était ailleurs et qu'il croyait à la possibilité de vaincre. La partie définitivement perdue, sa première idée en se reprenant à la vie fut la duchesse. Ainsi, presque à son insu, cette résolution improvisée était la mise au jour d'une lente et sourde germination. « J'ai voulu vous venger, je n'ai pas pu. » Certainement, bonne, violente et vindicative comme il la connaissait, celle que ses corps s'appelaient Marianto, serait à son chevet le lendemain matin, à lui de s'arranger pour qu'elle ne le quittât plus. En revenant tous deux dans le landau, qui avait pris les devants sur le coupé de Samy, obligé de marcher lentement à cause du blessé, Védrine et Fredet philosophaient devant les coussins vides où reposaient les épées du duel dans leur fourreau de serge. « Elle faut moins de train qu'en allant, c'est fichu bête !» dit Védrine, poussant les colichemardes du bout du pied. Fredet réfléchit tout haut. « Mais c'est vrai qu'on s'est battu avec les siennes. » Et reprenant sa tête importante et très correcte de témoin, nous avons tout gagné, le terrain, les épées, en plus un tireur de premier ordre. Comme il dit, c'est une chose bien extraordinaire. Ils cessèrent de causer un moment, distraits par la richesse du fleuve qu'allumait le couchant en nappe d'or, de vert et de pourpre. Le pont traversé, les chevaux s'engagèrent au grand trot dans la rue de Boulogne. « Oh, ça bouille !» reprit Védrine, comme si leur causerie n'avait pas été coupée d'un long silence. Sous des semblants de réussite, le garçon est un dévénard. Voilà plusieurs fois que je le vois aux prises avec la vie, dans de ces circonstances qui ont des pierres de touche pour juger la destinée d'un homme, qui lui font suer tout ce qu'il a de chance sous la peau. Eh bien, il a beau ruser, combiner, penser à tout, faire sa palette d'une façon merveilleuse, au dernier moment, quelque chose craque et, sans le démolir tout à fait, l'empêche d'arriver à ce qu'il veut. Pourquoi? Oh, simplement peut-être parce qu'il a le nez de travers. Je t'assure, ces déviations-là sont presque toujours des symptômes d'un esprit faux, d'une direction pas très droite. Le mauvais coup de barre, quoi. Et il s'amusait de cette idée. Puis, continuant à causer chance et malchance, Védrine racontait un fait singulier arrivé presque sous ses yeux pendant un séjour en Corse, chez les Padovani. C'était à Birbalia, au bord de la mer, juste en face le phare des Sanguinaires. Il y avait dans ce phare un vieux gardien, bon serviteur, à la veille de sa retraite. Une nuit, pendant qu'il était de garde, le vieux s'endort, sommeil 5 minutes, pas une de plus, arrêtant de sa jambe allongée le mouvement de la lanterne à feu tournant qui devait changer de couleur à chaque minute. Or, à cet instant de la même nuit, l'inspecteur général faisant, sur un aviso de l'État, sa tournée annuelle, se trouve en face des Sanguinaires, s'étonne d'y voir une lumière fixe, fait stopper, surveille, constate, et le lendemain, la chaloupe des ponts et chaussées amène un gardien de rechange dans l'île avec la notification de l'immédiate mise à pied du pauvre vieux. « Je crois, disait Védrine, que c'est un rare exemple de contre-veine, la conjonction dans la nuit, dans le temps et l'espace, de ce regard d'inspection et de ce court sommeil de veilleur. » Son grand geste calme montrait au-dessus de la place de la Concorde où leur voiture arrivait un large morceau de ciel d'un vert sombre, piqué çà et là de naissantes étoiles visibles au fond du beau jour qui mourait. Quelques instants après, le landau entrait dans la rue de Poitiers, très courte, assombrie déjà, s'arrêtait devant le haut portail écussonné de l'hôtel Padovani, toutes ses persiennes fermées, un ramage d'oiseaux dans les arbres du jardin. La duchesse était partie en villégiature à Mousseau pour la saison. Fredet hésitait, sa grande enveloppe à la main. Préparé à voir la belle Antonia, à faire un émouvant récit du duel, peut-être à glisser un mot de sa prochaine candidature. Maintenant, il ne savait plus s'il devait poser la lettre ou s'il la porterait lui-même dans 3 ou 4 jours, quand il rentrerait à Clos-Jolange. Finalement, il se décida à la laisser et remontant en voiture. « Pauvre garçon, il m'avait tant dit que c'était pressé. »« Sans doute, » fit Védrine, pendant que le landau les emportait par les quais qui se pointillaient de symétriques feux jaunes, vers le rendez-vous de procès-verbal. « Sans doute, je ne sais pas ce que contient cette lettre, mais pour qu'il se soit donné la peine de l'écrire à ce moment-là, ça doit être quelque chose de très fort, de très subtil. » Un merveilleux tour d'adresse. C'est bon, voilà. Très pressé, la duchesse est partie. Et tortillant gravement le bout de son nez entre deux doigts. C'est ça, vois-tu. Le coup d'épée dont leur fils avait failli mourir fut un dérivatif aux dissensions intimes des astiers. Secoué jusqu'au fond de ses entrailles paternelles, Léonard s'attendrit, pardonna, et comme pendant 3 semaines, Madame Astier, installée garde-malade près de Paul, ne vint plus rue de Beaune qu'en courant, pour prendre du linge, changer de robe, on évita le danger des allusions, des reproches couvert et détourné, dont sa vie, même après le pardon et la paix faite, les querelles de la vie à deux. Puis l'enfant rétabli, parti pour Bousseau, où l'appelait une pressante invitation de la duchesse, ce qui acheva de réconcilier le parfait ménage académique, de le rendre du moins à sa température égale de couche froide, ce fut son installation à l'Institut, dans l'appartement et l'emploi de Feu Loisillon, dont la veuve, nommée directrice de l'école des Couans, avait par un prompt départ permis au nouveau perpétuel d'emménager presque au lendemain de son élection. L'installation ne fut pas longue dans ce logement, depuis si longtemps envié, guetté, surveillé, espéré, connu dans ses moindres détours et tous ses avantages locatifs. À voir la précision avec laquelle les meubles de la rue de Beaune prenaient leur place, on eût dit un mobilier rentrant de la campagne et se posant, s'incrustant de lui-même aux endroits habituels, aux rainures par lui marquées sur le sol ou dans les panneaux. Nul embellissement, à peine un nettoyage à la chambre où Loisillon était mort, du papier neuf à l'ancien salon de Villemain, dont Léonard fit son cabinet de travail afin d'avoir le silence et la lumière de la cour, et sous la main une petite annexe très haute, très claire, pour ses autographes déménagés en trois voyages de fiacre avec l'aide de Fage, le relieur. C'était, chaque matin, une délectation nouvelle, ses archives presque aussi commodes que celles des affaires étrangères, où il entrait sans se courber, sans grimper l'échelle de son chenil de la rue de Beaune, auquel il ne pensait plus qu'avec colère et dégoût, par ce sentiment naturel à l'homme de haïr les endroits où il a souffert, d'une rancune qui dure et ne pardonne jamais. On se réconcilie avec les êtres, sujets à changer, à présenter différents aspects, non avec les choses et leur immuabilité de pierre. Dans la joie de l'emménagement, Astiréu pouvait oublier ses colères, les torts de sa femme jusqu'à ses griefs contre Tessèdre, autorisé à venir le mercredi matin comme autrefois. Mais rien que de songer à la cage en soupente où on le reléguait naguère un jour par semaine, l'historien faisait grincer sa mâchoire avançante, redevenait Crocodilus. Et conçoit-on ce Tessèdre que l'honneur de frotter à l'Institut au Palais Mazarin laissait aussi froid, aussi peu impressionné, et qui contribuait à bousculer la table, les papiers, les rapports innombrables du secrétaire perpétuel, avec sa même tranquille arrogance de citoyen de Rio en face d'un vulgaire chauvagnat. Astiréu, gêné sans l'avouer par cet écrasant dédain, essayait parfois de faire comprendre à cette brute la majesté de l'endroit où fonctionnait son pain de cire. « Tessèdre, disait-il un jour, mais c'est ici l'ancien salon du grand Villemain. Je vous le recommande. » Et en même temps, pour apaiser le fier Averne, il signifiait lâchement à Corentine « Donnez un verre de vase, brave homme !» Corentine, stupéfaite, apportait le verre que le frotteur, au but d'une goulée, appuyait sur son bâton, des yeux dilatés de joie. Puis il s'essuya la bouche d'un revers de manche et, posant le verre vide où sa lèvre gourmande était marquée, « Voyez-vous, monsieur Achetier, un verre de vin frais, il n'y a rien de bon que ça dans la vie !» Sa voix a vibré d'un tel accent de vérité, ses papilles d'un tel épanouissement de bien-être, que le secrétaire perpétuel rentra dans ses archives en claquant la porte d'un mouvement d'humeur. Car enfin, ce n'est pas la peine d'avoir tant trimé, parti de si bas pour arriver si haut, au summum de la gloire littéraire, historien de la maison d'Orléans, clé de voûte de l'Académie française,
puisque rien qu'un verre de vin frais pouvait donner à un rustre l'équivalent bonheur de tout cela. Mais un instant après, entendant le frotteur ricaner à Corentine, qui s'en foutait un peu de l'ancien chalon de Villemain, Léonard Astier haussa les épaules et sa velléité d'envie tomba devant tant d'ignorance, fit place à une profonde et bénigne pitié. Pour Madame Astier, grandie et élevée à l'Institut, retrouvant des souvenirs d'enfance à chaque pavé de la cour, sur chaque marche du vénérable et poussiéreux escalier B, il lui semblait qu'après une absence, elle était enfin rentrée chez elle. Et combien elle savourait mieux que son mari les avantages matériels de la situation. Plus de loyer à payer, ni d'éclairage, ni de chauffage. Une grande économie pour les réceptions de l'hiver, sans compter les appointements augmentés, les hautes relations, les influences précieuses, surtout pour son pôle et la chasse aux commandes. Quand Madame Loisillon vantait autrefois les charmes de son logement à l'Institut, elle ne manquait jamais d'ajouter avec emphase « J'ai reçu jusqu'à des souveraines. »« Oui, dans le petit endroit. » ripostait avidement la bonne Adélaïde, dressant son long cou. En effet, les jours de grandes séances, longues et fatigantes, il n'était pas rare qu'à la sortie, quelques hautes dames, princesses royales en tournée, mondaines influentes au ministère, montent à faire à la femme du secrétaire perpétuel une courte visite intéressée. C'est à des hospitalités de ce genre que Madame Loisillon devait son poste actuel de directrice, et Madame Nassier ne serait certainement pas plus maladroite qu'elle à tirer parti du petit endroit. Une seule chose gênait son triomphe du moment, sa brouille personnelle avec la duchesse, qui l'empêchait de rejoindre Paul à Mousseau. Mais une invitation arrivait à point de Claude Jallange pour la rapprocher de son fils par le voisinage des deux châteaux, et elle espérait peu à peu rentrer en grâce auprès de la belle Antonia, pour qui elle se sentait redevenir toute tendre en la voyant si bonne avec son Paul. Léonard, retenu à Paris par son service, la besogne de Loisillon de plusieurs mois en retard, laissa partir sa femme, promettant d'aller passer quelques jours auprès de leurs amis, bien décidé en réalité à ne pas s'éloigner de son cher institut. On y était si bien, si au calme. Deux séances par semaine pour lesquelles il n'avait que la cour à traverser, séances d'été intimes, familières, à cinq ou six jetonniers, somnolant sous le chaud vitrail. Le reste de la semaine, liberté absolue. Le laborieux vieillard en profitait pour corriger les épreuves de son Galilée, enfin terminé, prêt à paraître à l'entrée de la saison. Il sarclait, émondait, veillait à ce qu'il n'y en eût pas, à ce qu'il n'y en eût pas du tout. Préparait encore une seconde édition de sa maison d'Orléans, enrichi de nouvelles pièces inédites qui en doublaient la valeur. Le monde se fait vieux. L'histoire, cette mémoire de l'humanité soumise comme telle à toutes les maladies, lacunes et affaiblissements de la mémoire, doit plus que jamais s'appuyer de textes, de pièces originales, se rafraîchir, remonter aux sources, sous peine d'erreur ou de radotage. Aussi quelle fierté pour Astier et Hue, quelle douceur en ces brûlantes journées d'août de relire sur les bonnes pages cette documentation si sûre, si originale, avant de les retourner à l'éditeur au petit Sécart avec l'en-tête où figurait pour la première fois au-dessous de son nom secrétaire perpétuel de l'Académie française. Un titre auquel ses yeux n'étaient pas encore faits, et qui l'éblouissait chaque fois, comme la cour toute blanche de soleil devant ses fenêtres, l'immense seconde cour de l'Institut, recueillie, majestueuse, à peine traversée de quelques cris de moineaux et d'hirondelles, solennisée par un buste en bronze de Minerve, et ses 10 bornes alignées contre le mur du fond que dominait la gigantesque cheminée d'appel de la Monnaie toute voisine. Vers 4 heures, quand le buste commençait à allonger son ombre casquée, le pas nerveux et raide du vieux Jean Réhu sonnait sur les dalles. Il habitait au-dessus des astiers et sortait régulièrement chaque jour pour une longue promenade, protégé mais à bonne distance par un domestique dont il s'obstinait à refuser le bras. De plus en plus sourd et fermé, sous l'influence de l'été très chaud cette année-là, ses facultés s'affaiblissaient, surtout sa mémoire, qui ne parvenait plus à guider les épingles en rappel au revers de sa redingote. Il embrouillait ses récits, perdu à travers ses souvenirs comme le vieux Livingstone dans les marécages de l'Afrique centrale, piétinant, pataugeant, jusqu'à ce qu'on lui vînt en aide. Et comme cela l'humiliait, le mettait de noire humeur, il ne parlait plus guère à personne, soliloquait en marchant, marquant d'une halte brusque et d'un hochement de tête la fin de l'anecdote et l'inévitable « J'ai vu ça, moi !» D'ailleurs, toujours droit, gardant, comme au temps du directoire, le goût des mystifications, s'amusant à priver de vin, de viande, à soumettre aux régimes les plus variés, les plus cocasses, la foule des badauds enragés de vie qui lui écrivaient journellement pour savoir à quelle hygiène il devait son extraordinaire sursis, et prescrivant aux uns les légumes, le lait ou le cidre, à d'autres les seuls coquillages, il ne se refusait rien, buvait sec à ses repas, toujours suivi d'une sieste, et dans la soirée d'une robuste marche de banc de car que Léonard Astier entendait au-dessus de sa tête. 2 mois s'étaient passés, août et septembre, depuis l'installation du secrétaire perpétuel, 2 mois pleins d'une paix heureuse et féconde, d'une halte d'ambition telle qu'il n'en avait peut-être jamais savouré de pareille dans sa longue existence. Madame Astier, encore à Clos-Jallanges, pariait d'un prochain retour, et déjà le ciel de Paris s'ardoisait des premiers brouillards, quelques académiciens rentraient, les séances devenaient moins intimes, et aux heures de travail dans l'ancien salon Villemain, Léonard Astier n'avait plus besoin de fermer ses persiennes devant la soleillade ardente de la cour. Il était à sa table, une après-midi, en train d'écrire à ce bon de Frédet d'heureuses nouvelles pour sa candidature, quand l'antique sonnette fêlée de la porte retentit violemment. Corentine venait de descendre, il alla ouvrir lui-même, saisi de se trouver en face du baron Huchelard et de Boss, l'archiviste paléographe, qui fit irruption dans le cabinet du maître, hagard, levant les bras, râlant sous sa barbe rouge et sa chevelure en broussailles. « Mais les pièces sont fausses, j'ai la preuve, la preuve !» Astier Réhut, un instant sans comprendre, regardait le baron qui regardait la corniche, puis lorsqu'il eut démêlé dans les aboiements du paléographe qu'on niait l'authenticité des charlequins vendus par Madame Astier et cédés par Boss à Huchelard, il sourit de très haut, se déclara prêt à rembourser ses 3 autographes, dont rien, absolument rien, ne pouvait à ses yeux entamer l'intégrité. « Permettez-moi, monsieur le secrétaire perpétuel, d'appeler votre attention. » Le baron Huchelard, en parlant, déboutonnait à mesure son pardessus mastic, tirée d'une large enveloppe les trois parchemins, transformés, potassés, méconnaissables, passés de leur ton de fumée au blanc le plus absolu, laissant voir chacun cette marque lisible et nette au milieu de la page sous la signature de Charles Quint. B.B. Angoulême, 1830. C'est le chimiste Delpech, notre savant collègue de l'Académie des sciences. Mais ses explications n'arrivaient qu'en bourdonnement confus au pauvre Léonard, devenu subitement très pâle, exsangue jusqu'au bout de ses gros doigts velus, où les trois pièces autographiques grelottaient. « Les 20 000 francs seront chez vous ce soir, monsieur Boss, » articula-t-il enfin avec ce qui lui restait de salive dans la bouche. Boss réclama piteusement, « Monsieur le baron, on avait donné 22 000. »« 22 000, soit, » dit Astiréu, qui trouvait la force de les reconduire. Mais dans l'ombre de l'antichambre, il retint son collègue des inscriptions et d'une voix bien humble, implorait, pour l'honneur de l'Institut, le silence sur cette malheureuse affaire. Volontiers, mon cher maître, mais à une condition. Dites, dites. Vous recevrez tantôt ma lettre de candidature au fauteuil Loisillon. Une poignée de main vigoureuse fut la réponse du secrétaire perpétuel, l'engagea pour lui-même et pour ses amis. Resté seul, le malheureux s'écroula devant la table chargée d'épreuves où les trois fausses lettres à Rabelais gisaient toutes ouvertes. Il les regardait hébété, disait machinalement, « Maître Rabelais, vous qu'avez l'esprit fin et subtil. » Les caractères dansaient, tourbillonnaient dans un délayage d'encre décomposé en larges maculatures de sulfate de fer qu'il voyait monter, s'étendre, gagner sa collection, ses 10 ou 12 000 pièces autographiques, tout hélas de même provenance. Puisque ces trois-là étaient fausses, alors... Son Galilée, alors sa maison d'Orléans, alors sa lettre de Catherine offerte au grand-duc et celle de Rotrou dont il avait fait hommage public à l'Académie. Alors, un horrible effort de volonté le mit debout. Oh, Phage, tout de suite voir Phage! Ses relations avec le relieur dataient de quelques années. D'un jour où le petit homme était venu aux archives des affaires étrangères solliciter l'avis du très illustre et savant directeur sur une lettre de Marie de Médicis au pape Urbain VIII en faveur de Galilée. Justement, en petit sécart, dans une série de précis d'histoires amusantes, sous le titre de Divertissement scolaire, annonçait un Galilée par Astiréu de l'Académie française. Aussi, après avoir, de par sa longue expérience, reconnu et affirmé l'authenticité du manuscrit, quand l'archiviste apprit que Phage possédait également la réponse du pape Urbain, une lettre de remerciement de Galilée à la reine, d'autres encore, tout à coup surgissait en lui l'idée d'un beau livre d'histoire à la place de sa petite drôlerie. Mais en même temps, pris d'un scrupule d'honnête homme sur l'origine de ses documents, il regarda l'avorton bien en face, scruta avec autant de minutie que pour une pièce autographique ce long visage blafard aux paupières rougies et clignotantes, puis dans un sévère claquement de mâchoire, interrogea: « Ces manuscrits sont-ils à vous, monsieur Phage ?»« Oh non, mon cher maître, il n'était, lui, que l'intermédiaire d'une personne. Une vieille demoiselle noble, forcée de se défaire pièce à pièce, d'une très riche collection, dans sa famille déjà du temps de Louis XVI. Encore n'avait-il voulu s'entremettre qu'après la vie d'un savant illustre et intègre entre tous,
Et maintenant, fort de l'approbation du maître, il comptait s'adresser à de riches collectionneurs, au baron Huchelard, par exemple. Astiréu l'interrompit. « Inutile, apportez-moi tout votre fonds, Galilée. J'en ai le placement. » Dumonde arrivait, s'installait aux petites tables, le public des archives, chercheurs et fureteurs, silhouettes silencieuses et blanchies de terrassiers des catacombes, sentant le moisi, le renfermé, l'exhumation. Là-haut, dans mon cabinet, pas ici, murmura l'archiviste contre la grande oreille du bossu qui s'éloignait, ganté, pommadé, l'arrêt partageant le front, avec l'orgueilleuse suffisance assez fréquente chez ce genre d'infirme. Un trésor, cette collection Ménilcaz, le nom de la demoiselle livrée par un bainfage sous le plus absolu secret, un trésor inépuisable en pièces des XVIe et XVIIe siècles, variées, curieuses, éclairant le passé d'un jour nouveau, bouleversant parfois d'un mot, d'une date, les notions acquises sur les faits et les hommes. Si coûteux fussent-ils, Léonard Astier ne laissait échapper aucun de ces documents, concordant presque toujours avec ses travaux en train ou en projet. Et pas l'ombre d'un doute sur les récits du petit homme, ces liasses entières d'autographes s'empoussiérant encore dans le grenier d'un vieil hôtel de Ménilmontant. Si, après quelque observation venimeuse du prince des acrotophiles, un soupçon effleurait sa conscience, comment aurait-il tenu devant le sang-froid du relieur installé à sa table, ou bien arrosant ses salades dans la paix du grand cloître vert, surtout devant l'explication toute naturelle qu'il donnait aux lapsus et regrattages visibles sur certains feuillets, avec le coup de mer subi par le fond, Ménilcaz, lorsqu'on le fit passer en Angleterre au temps de l'émigration. Rassuré, réconforté, Astiréu retraversait la cour d'un pas alerte, emportant chaque fois quelque nouvelle acquisition contre un chèque de 500, 1000, même 2000 francs, selon l'importance de la pièce historique. Au fond, quoi qu'il se dit pour endormir sa conscience, dans ces prodigalités que personne ne soupçonnait encore autour de lui, l'historien avait moins de part que le collectionneur. Pour sombre et sourde que fût la soupente de la rue de Beaune, où se faisait d'ordinaire le trafic, un observateur n'aurait pu s'y tromper. Cette voix faussement indifférente, ses lèvres desséchées murmurant « Montrez voir !» l'avide tremblement des doigts, révélait la passion envahissante, bientôt la manie, le kyste égoïste et dur qui prend et mange tout l'être au profit de son développement monstrueux. Astier devenait l'harpagon, classique et farouche, implacable au sien comme à lui-même, criant misère, escaladant les tramways, tandis qu'en 2 ans, 160 000 francs de ses économies s'égrenait furtivement dans la poche du bossu, et pour motiver à l'attention de Madame Astier, de Corentine de Tessèdre, les allées et venues du petit homme, l'académicien lui donnait à relier des dossiers remportés, rapportés, visiblement. Ils se servaient entre eux d'allusions, de mots de passe. Albin Fage écrivait sur carte postale « J'ai de nouveaux fers à vous montrer, reliure du XVIe siècle en bon état et rare. » Léonard Astier hésitait. « Merci, besoin de rien, attendons. » Nouvel avis. « Ne vous gênez pas, cher maître, je verrai ailleurs. » À quoi l'académicien ne manquait de répondre.
Et demain matin, de bonne heure, apportez les fers. C'était la misère de ces joies de collectionneur. Il fallait acheter, acheter toujours, sous peine de voir aller à Boss, à Huchelard, à d'autres amateurs, cette collection miraculeuse. Parfois, en pensant au jour où l'argent manquerait, pris de sombre fureur, il interpellait l'avorton dont la face impassible et suffisante l'exaspérait. Plus de 60 000 francs en 2 ans. Et vous dites encore qu'elle a besoin d'argent, mais quelle vie mène-t-elle donc, votre demoiselle noble? À ce moment-là, il souhaitait la mort de la vieille fille, l'anéantissement du relieur, ou bien une guerre, une commune, un grand cataclysme social qui engloutirait le fonds Messicas et ses acharnés exploiteurs. Eh bien, maintenant, il approchait le cataclysme, oh non celui qu'il eût désiré, car le sort n'a jamais bien exactement sous la main ce que lui demandons, mais un brusque et sinistre dénouement où pouvait sombrer son œuvre, son nom, sa fortune, sa gloire, tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait. Et de le voir s'en aller à grands pas vers la cour des comptes, livide, parlant haut, ne rendant aucun des saluts qu'il était d'ordinaire, jusqu'au fond des boutiques. Les libraires du quai, les marchands d'estampes, ne reconnaissaient plus leur astier réu. Oh, lui ne voyait rien, personne. Il tenait imaginairement le bossu à la gorge, le secouait par sa belle cravate à épingle, et lui mettant sous le nez les charlequins déshonorés par les manipulations de Delpech. Cette fois, voyons, qu'avez-vous à répondre? Arrivé rue de Lille, il poussa la porte en planche balécarie dans la palissade qui entoure le palais, puis le perron franchi, sonnait à la grille, sonnait encore, saisi par le lugubre aspect du monument dépouillé de ses fleurs et de ses verdures, la vraie ruine croulante et béante, confondant ses ferrures tordues et ses lianes défeuillées. Un bruit de savate traîna par la cour froide. La concierge apparut, forte femme, et sans ouvrir la grille, son balai à la main. « Vous venez pour le relieur? Ah, nous n'avons plus ça chez nous. » Partit le père Fage, déménagé, sans laisser d'adresse, même qu'elle était en train de nettoyer le logement pour celui qui le remplaçait à la cour des comptes, le bonhomme ayant démissionné. Astier eu, par contenance, bégaya encore quelques mots, mais un grand tourbillon d'oiseaux noirs s'abattant dans la cour couvrait sa voix de cris rauques et lugubres qui se prolongeaient sous les voûtes. « Tiens, les corneilles de l'hôtel Padivani !» dit la femme avec un geste respectueux vers les platanes en branches grises par-dessus les toits d'en face. « Elles arrivent avant la duchesse cette année. Oh, si que nous aurons l'hiver de bonheur !» Il s'éloigna, le cœur plein d'épouvante.